gris bleu comme un ciel de nuages qui part à l'aventure vers le soleil levant. Des cheveux en juillet balayent les orages et des chevaux de fer courent dans des entailles. Austrasie.
Chers amis, bonjour. Merci de nous écouter sur RCN 90.7 et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux, YouTube, etc. Alors, dans le cadre des voyages en Austrasie qui vous sont proposés tous les samedis à 17h sur notre chaîne, nous vous invitons à rencontrer, deux samedis par mois, les écrivains, les écrivaines de notre région, ceux et celles qu'on appelle les plumes d'Austrasie et d'ailleurs. Alors, pour ce faire, pour vous inviter à nous suivre en ce voyage, donc Yves Sarti au micro, mais aussi et surtout, je suis accompagné de Mona. Bonjour Mona.
Bonjour Yves.
Ça va ?
Très très bien.
Les lectures ont été bonnes ?
Très bonnes.
Alors Mona, qu'elle est lectrice tous azimuts.
Oui, tout à fait.
Hein ? Mais qui a une petite préférence quand même pour la littérature policière anglaise.
Voilà, c'est ça.
Les vieilles dames anglaises.
Ça, c'est ma petite gourmandise, oui, c'est ça.
Les vieilles dames anglaises, les vieilles dames indignes anglaises.
Oui, tout à fait.
Tu as bien raison. Et puis, à compter de ce jour, nous aurons la chance d'avoir pour nous aider celui qui nous a rejoint, Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Yves, bonjour Mona, bonjour à tous.
Voilà. Alors Julien, grand gaillard, qui lui aussi a des préférences littéraires.
Ah bah oui, moi je suis un peu comme Mona, polar, plutôt américain, français aussi.
Oui.
Et puis de la littérature, un petit peu plus d'actualité, on va en parler bien sûr.
Allez voir, parce que Julien va nous faire deux chroniques sur deux livres que tu as aimés.
Oui, aujourd'hui, ce sera littérature américaine. Et puis, oui, d'une façon récurrente, on va parler des relations entre la littérature et l'image,
oui,
le cinéma,
très
les
bien,
séries.
Très bien, ça c'est très
voilà,
bien.
Donc ce sera quelque chose de récurrent.
Ah, c'est un petit voyage où j'aimerais bien te suivre.
Ah bah avec plaisir.
Donc voilà, donc vous voyez que on se met en trois pour vous apporter tout ce qui compte dans notre littérature en Lorraine. Mais il est temps d'accueillir notre écrivain du jour. Alors, je le connais, nous le connaissons depuis déjà un bon moment. Raymond Hiss. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour à tous.
Alors Raymond Hiss, nous parlerons bien sûr de son dernier bouquin. Mais je crois que Mona...
Oui.
Tu es la dernière de nous deux à l'avoir lu.
Oui, effectivement, c'est encore tout frais. Alors donc, c'est le bar des Afrancesados. Comment on dit ?
Des Afrancesados, comme dit l'espagnol, oui.
Voilà, qui sont publiés aux éditions Rivière Blanche. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une uchronie, d'abord.
Oui, c'est une uchronie.
Donc, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas encore
alors,
ce que
uchronie,
c'est qu'une uchronie.
C'est un des sous-genres de la science-fiction, mais assez particulier, sur des bases historiques. C'est l'histoire telle qu'elle n'a pas été, mais telle qu'elle aurait pu être, parce qu'à un certain moment, on imagine que l'histoire a dévié de son cours normal. Mm-hmm. Les classiques, c'est les Allemands gagnés la Deuxième Guerre mondiale, ça donne le maître du Haut-Château. Napoléon a gagné la bataille de Waterloo.
Ah oui, Grouchy est arrivé à l'heure.
Grouchy est arrivé à l'heure, il a pas raté Blücher, etc. Et on retrouve des personnages souvent employés à contre-emploi 20 ans ou 30 ans après.
Oui, oui.
C'est l'Uchronie classique. Le bar des Afrancesados, c'est un peu particulier.
Oui. Alors pourquoi ce titre déjà ?
Alors les Afrancesados, historiquement, ce sont les Espagnols qui ont, on peut dire, collaboré avec les Français lors de la conquête napoléonienne.
Ouais.
Et certains d'entre eux l'ont fait par opportunisme, d'autres l'ont fait sincèrement parce qu'ils pensaient que les idées de la Révolution française allaient pouvoir un peu secouer l'Espagne, un peu rafraîchir un peu l'Espagne. Mais comme disait Robespierre, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés, et on sait comment ça s'est terminé. Et ces Afrancesados, donc, certains ont été exécutés, et d'autres ont dû s'enfuir. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Francisco Goya.
Oui.
Donc, mais le mot Afrancesados en espagnol désigne de manière générale tout ce qui est relatif à la France. Et là, pour les Espagnols de l'époque, il a pris un sens péjoratif, quoi. C'était les collaborateurs des Français, quoi.
Alors, parlez-nous de votre roman.
Alors, le roman, en tant qu'uchronie, est atypique par rapport à ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que ce n'est pas le grain de sable qui a fait dévier l'histoire. En fait, le grain de sable, on ne le connaît pas vraiment. Il n'y a aucun personnage historique. C'est l'histoire d'une famille. d'une famille basque, et particulièrement d'une jeune fille, dans un contexte uchronique, c'est-à-dire que j'imagine qu'à un certain moment, la France a été balkanisée en de multiples oui. États indépendants sur des bases ethno-linguistiques. L'Alsace est devenue indépendante, la Bretagne, le Pays Basque, l'Occitanie, bon, il reste
et
plus rien.
Corse.
Il reste que ce qu'ils appellent la petite France, avec Paris comme capitale. Et sans qu'il y ait un événement marquant qui est, je prends la situation, à un moment donné. Bon, ça pourrait se passer de nos jours. Il n'y a pas d'éléments science-fictionnesques à proprement parler. C'est d'un monde qui est tout à fait contemporain, mais dans un contexte uchronique. Et ça va être les aventures d'une jeune femme, Maïté, une basquaise, qui va découvrir, en voyageant aussi, en allant en Bretagne, en Alsace, en revenant, en se retrouvant finalement à Paris, va découvrir tous les mensonges qui ont recouvert son éducation, l'éducation qu'elle a reçue à Bayonne pendant son enfance, en particulier au lycée Eva Duarte.
Alors, ce n'est pas une invention de Raymond, parce que nous avons l'exemple à moins d'une, enfin une heure d'avion, avec les Balkans, tu en parlais. L'exemple le plus frappant, et qui correspond exactement à ce qui se dit dans l'ouvrage de Raymond, c'est que au moment de la fin de la guerre, des indépendances dans les Balkans, des pays comme la Slovénie, comme la Croatie, comme la Bosnie, comme la Serbie, qui ont des frontières un peu communes, des endroits où ça se mélange un petit peu, au moment de découper ces régions-là, ils ont pris le soin, les États, les gouvernements, ont pris le soin de modifier leur langue de façon à ce que un Bosnien ne parle pas tout à fait la même langue qu'un Croate, qui ne parle pas la même langue qu'un Slovène, qui ne parle pas la même langue qu'un Serbe. Et c'est de façon à ce que aussi les différentes religions ne parlent pas la même langue. Qu'un catholique ne parle pas tout à fait la même langue qu'un musulman, qui ne parlera pas la même langue qu'une autre religion. Donc, ce n'est pas une invention, c'est quelque chose qui est réaliste, qui existe et que l'on peut vivre à nos frontières, pratiquement.
Oui, bien sûr, oui. Mais en France, les langues régionales existent, bien entendu. Comme langue proprement parlée, il faut parler surtout du breton et du basque, les autres étant simplement des dialectes. Mais
tu vas avoir un mal à partir avec les Alsaciens.
Oui, non, mais puis peut-être avec les Basques aussi, mais bon. les langues sont utilisées, elles sont tout à fait respectables, ces langues, mais elles sont utilisées à des fins purement politiques et non pas culturelles pour tracer des frontières dans la tête des gens et empêcher qu'à terme, on se comprenne, ça détruira tout ce qu'a fait la France au 19e siècle, c'est-à-dire permettre qu'on se parle, qu'on puisse se comprendre d'un côté, d'un coin à l'autre, l'hexagone. C'est ce à quoi vise ce genre de dérive linguistique.
Alors bon, votre héroïne est née dans une ancienne province française, devenue donc un pays indépendant, le Skadi. Donc pays indépendant avec son histoire, ses héros, ses martyrs. Il faut vraiment, vous avez tout construit en fait.
Oui, bien sûr, oui, tout est un mensonge. Les héros, on apprend à la fin ce qui étaient exactement ces héros.
Oui.
L'histoire, qu'on trafique un petit peu. Il y a quelques exemples que je donne. Par exemple, elle a appris, Maïté, dans son lycée, a appris que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais de mystérieux navigateurs basques. Que ce n'est pas Vasco de Gama qui a fait le premier tour du monde, mais un basque qui était son second. Alors, c'est toujours pareil, ça se base quelquefois sur des semi-vérités, quoi. Mais ce qui est assez curieux, c'est que ces choses-là, je ne les ai pas inventées. Je l'ai trouvé dans des livres écrits par des Basques qui figurent dans la bibliographie, et c'est écrit noir sur blanc dans un certain nombre d'ouvrages qui font référence apparemment au Pays Basque. J'en ai inventé d'autres, notamment à propos de La Fontaine, mais enfin c'est à peine exagéré, quoi.
Alors donc c'est un pays soi-disant indépendant, en fait il l'est pas vraiment, puisque en fait il y a une concession chinoise. On ne sait pas d'ailleurs si Taïwan est revenu dans le giron chinois, on ne sait pas vraiment. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la France, pas la France, puisque la France maintenant est réduite à un tout petit territoire. Donc, c'est ce territoire-là, cette province indépendante, a vendu quoi ses infrastructures. Ses...
Oui. Ben, évidemment, c'est-à-dire qu'une telle balkanisation de la France aboutit à la création de micro-États sur des bases ethnico-linguistiques. Et ces pays-là se sont trouvés dans la situation de l'Afrique au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'ils ont été ils ont été colonisables. Personne n'aurait pensé pouvoir coloniser l'Afrique à l'époque des grands empires africains, des empires maliens, etc. Au XIXe siècle, c'était mûr. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ces micro-États sont à la portée de l'argent de poche de n'importe quelle multinationale ou de la Chine, par exemple, dans ce cas-là. Il y a l'exemple en Bretagne aussi, qui est sous la tutelle de pire d'une multinationale de l'informatique. Mmh. Le multinationale, son symbole, c'est la poire mangée.
Oui.
La poire. Oui. La poire.
Toute référence, etc., etc., c'est ça.
Oui.
Alors, c'est un récit dans lequel l'humour est bien présent, mais il côtoie aussi de très près les peurs de notre monde moderne. La mainmise des étrangers chinois et qataris sur nos structures et nos entreprises, l'omniprésence des robots et surtout le conditionnement intellectuel des populations, notamment par l'éducation et par la réécriture de l'histoire. Alors, vous pointez la responsabilité des historiens et de l'éducation, surtout.
Oui, dans un tel cas, bien sûr, oui. Ce genre de falsification de l'histoire, ça abonde quand même dans pas mal de pays. Quand on veut réécrire l'histoire, on l'invente ou on invente des États qui n'ont jamais existé. Le Pays Basque n'a jamais existé.
Oui,
l'Alsace non plus, d'ailleurs, en tant qu'État, ce qui n'est pas le cas de la Bretagne. Mais enfin, bon. Mais bon, j'ai voulu surtout, c'est pas, faudrait pas que le lecteur s'y trompe, je n'ai pas voulu faire un pamphlet politique. Ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Donc, j'ai voulu retracer l'histoire d'un personnage et d'une famille dans un contexte particulier, dans ce contexte uchronique. Bon, les gens, politiquement, peuvent en penser ce qu'ils veulent après, quoi.
Mm-hmm.
Mais je me suis bien amusé aussi, quand même. Y a des personnages... J'essaie toujours, dans mes romans, de bien soigner les personnages secondaires aussi. C'est important. Donc, il y en a une belle brochette là-dedans. Et des personnages secondaires qui réapparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent, qui jouent un rôle ambigu, c'est le cas de Fredel, l'Alsacien,
oui.
Ou d'un personnage totalement improbable comme l'imam de Naoned,
oui.
Pierrig.
Oui.
Naoned, c'est Nantes, hein, je précise. Oui. Donc tous les toponymes sont dans les langues régionales, bien sûr.
Oui, avec un petit glossaire à la fin qui aide, quelquefois. Parce qu'il y a quelquefois des noms qui sont évidents, mais d'autres fois, c'est moins vrai.
Oui, bien sûr. Oui. Bayona, Bayonne, ça va. Doniman Gardzif, il faut le savoir. Quoi.
Oui.
Alors, est-ce que tu es d'origine basque?
Non, par alliance. Ma belle-mère est basquaise. Donc j'ai passé un certain nombre de mois de vacances au Pays Basque, qui est un très beau pays, mine de rien, je ne sais pas, qui est un pays magnifique.
Et tu es tombé amoureux de la région de ce Pays Basque?
Oui, j'aurais pu s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, quoi. s'il n'y avait pas toutes ces dérives politiques auxquelles j'ai assisté pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, quoi. Un certain nombre de faits que je décris ont réellement existé. Certains assassinats ou tentatives d'assassinat, par exemple, je ne les ai pas inventés, quoi.
Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a eu une période trouble. Alors, le Pays Basque s'étend sur nos deux pays, la France et l'Espagne.
Oui.
Donc, ce Pays Basque dont tu nous parles aujourd'hui, qui est indépendant dans ton roman, c'est le Pays Basque en entier.
Oui, les sept provinces françaises et espagnoles.
Voilà.
Avec la Navarre qui est rue dans les brancards.
Parce qu'elle n'est pas basque.
Non.
Elle vient de... Dans les quatre.
Oui, c'est bien sûr. Oui. Et puis historiquement, par exemple, c'est peut-être pas à son honneur, mais enfin, pendant la guerre civile espagnole, les Navarrais étaient avec les franquistes, les Recoetes, contre les Basques, par exemple. Mais le dogme, c'est que le Pays Basque, c'est cette province, donc la Navarre en fait partie, qu'ils veuillent ou veulent pas. C'est le système des poupées russes dont je parle à un certain moment.
Oui, tout à fait.
Quand on définit un pays, un sous-ensemble d'un pays, on lui donne son unité, mais il y a toujours un petit sous-ensemble du sous-ensemble qui n'en fait pas partie, donc on n'en finit jamais, quoi. D'où la guerre de la guerre.
Et d'ailleurs, ces situations-là, on les retrouve bien vivantes dans les Balkans, le Kosovo, etc. Enfin, il y a des situations qui se ressemblent dans les Balkans, donc ce n'est pas quelque chose d'impossible. J'insiste sur le fait que ce sont des choses qui peuvent se présenter dans la vie des États et des peuples d'aujourd'hui.
Oui, mais c'est ce qui nous menace en Corse, par exemple, ou où l'état de sécession est la plus avancée, quoi.
Il faut rappeler que le Pays Basque, pendant de longues années, a vécu dans l'insurrection.
Oui, bien sûr.
Notamment
oui.
Le Pays Basque espagnol.
Oui, oui.
Et donc on en parle, on y est aussi dans ton roman, à certains moments, dans cette insurrection.
Bah, c'est l'insurrection qui a lieu en Navarre,
oui.
Mais je travaille à front renversé, c'est-à-dire que c'est les Navarrais qui se battent pour
voilà.
La liberté
oui. Voilà.
Contre
tout
les Basques qui, eux, sont censés voilà. S'être battus aussi pour leur liberté. Quoi.
Mm-hmm.
Et donc il y a une guerre civile, effectivement, qui se déroule en Navarre, dont un des protagonistes va être victime,
mm-hmm.
le premier
fiancé
de ma Maïté. Quoi.
Oui. Mais ce qui est important aussi, c'est de suivre cette Maïté. On la suit pendant 20 ans, pratiquement.
De 12 ou 15 ans, à peu mm-hmm. près.
Ouais.
Elle a le temps d'avoir deux enfants, se marier.
Etc. Oui. Et elle va, parce que elle va partir en Bretagne après le Pays Basque où elle est fiancée, etc. Elle va partir en Bretagne pour apprendre la langue bretonne, parce que il n'y a plus de langue commune sur le territoire de la France, à part une langue qui s'appelle le ricain.
Oui. Donc qui sert un peu de sabir commun à tous ces gens-là, parce qu'il faut quand même pouvoir se parler.
Voilà.
Quoi.
Okay.
Quand elle rencontre son fiancé, bon, il se parle en ricain, bien qu'elle ait un prix. Le roman commence d'ailleurs quand elle fait des démarches pour obtenir ses visas pour aller en Bretagne.
Voilà.
Et un visa de transit par l'Occitanie, donc avec sa cousine. Et elle va aller rejoindre sa correspondante bretonne, avec qui
voilà.
Elle a appris le breton, à Nantes, en Bretagne.
Et le français, on l'apprend comme une langue étrangère, en deuxième langue, troisième langue, enfin...
Oui, à peine. C'est-à-dire que comme c'est mal vu, de même que l'espagnol, les gens apprennent l'occitan, le breton, etc. Et il y a quelques kamikazes, qui sont très mal vus d'ailleurs dans les milieux enseignants, qui persistent à vouloir malgré tout apprendre le français et l'espagnol, et on les surmonte par dérision aussi les enfants de Chassados.
Oui. Alors on va pas raconter tout le bouquin. Hein,
bah non, bien sûr.
Mais elle va en Bretagne, de la Bretagne elle va partir en Alsace.
Mm-hmm.
Elle ira pas en Corse parce que la Corse est devenue pratiquement un bunker où on ne peut pas accéder.
Bah, c'est-à-dire que la Corse est en état de guerre civile entre deux factions rivales. Qui,
ouais.
Donc ça provoque une émigration des Corses, dont un des représentants qui a le malheur de s'appeler Paoli.
Paoli, oui.
Prénommé Pascal, on lui a joué un mauvais tour. Enfin, ses parents lui ont joué un mauvais tour. Et elle retrouvera d'ailleurs ce personnage à Strasbourg, un intellectuel, mais complètement déphasé, qui n'a jamais réussi à s'adapter à l'émigration, au détachement de son pays, quoi.
Alors, à chacune de ces implantations dans des pays nouveaux, or c'est dû à des évolutions du métier de son mari.
Oui, elle suit son mari en Alsace pour des raisons professionnelles.
Ça n'a rien de c'est pas lié à l'histoire proprement dit. Enfin,
voilà.
L'histoire avec un grand H, c'est l'évolution d'un ménage tout à fait normal et ordinaire.
Mais le roman, si on le prend sous un certain aspect, c'est un roman d'histoire, disons, de littérature générale. C'est une femme qui rencontre son fiancé, qui se marie, qui voyage, etc. Des choses très, très banales, mais dans un contexte uchronique.
Voilà.
Qui
et à chaque fois, on trouve des gens qui sont des sacrés gaillards. Tu parlais de l'imam qu'elle rencontre à Nantes. Il y a vraiment des sacrés gaillards qu'elle rencontre, des gens. Alors, tu parlais des personnages secondaires. Moi, je voulais dire que ces personnages secondaires sont presque plus importants dans le déroulement de l'histoire, ou de moins dans le relief de l'histoire, que Maïté elle-même.
Oui, oui. Ben, Maïté, contrairement à d'autres romans que j'ai écrits, souvent les personnages masculins sont relativement palots par rapport aux personnages féminins. Bon, là, c'est un petit peu l'inverse, parce que Maïté, en fait, c'est ce que lui dit son mari, elle est enfermée dans une bulle, et toute l'histoire du roman va consister à percer cette bulle, à crever cette bulle, pour découvrir enfin la réalité du monde, quoi. Donc c'est les autres personnages qui sont autour d'elle qui vont contribuer à lui faire découvrir cette réalité. Son premier fiancé, son mari, le couple de Parisiens, le Fredel, l'Alsacien aussi, qui est un personnage assez pittoresque. Et puis aussi cet improbable imam de Naoned, quoi. Qui est amateur de gros plans, qui fait quelques petits arrangements avec le Coran, quoi.
Oui, quand elle arrange. Oui. Eh ben, nous allons faire une petite, pause musicale. Et donc, alors, en contrepoids...
Mona, tu as une bonne idée, je dois le souligner.
Bah, je pensais qu'un petit contrepoids au livre de Raymond, ce serait bienvenu. Donc, j'ai choisi Douce France de Charles Trenet.
Ben voilà, c'est tout à fait ça.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Ah oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux, au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère, mon ciel pur, mon horizon, ma grande route, ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, mon bonheur. Et oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Oh, douce France, douce France.
Alors, vous êtes toujours dans l'émission Les Plumes d'Austrasie et d'ailleurs. Et maintenant, nous allons avoir une petite chronique de Julien qui va nous parler d'Espace du rêve.
Oui, merci Mona. On va essayer dans cette chronique de vous faire découvrir des livres qui parlent d'images ou bien des films et des séries qui parlent de littérature. Entre les mots et les images, on ne va pas chercher à savoir qui est l'œuf ou qui est la poule, tellement les deux mondes peuvent fonctionner ensemble. Cette semaine, on commence avec une biographie d'un réalisateur américain, David Lynch. David Lynch n'est pas un cinéaste qu'on pourrait considérer comme étant un cinéaste grand public, sauf à une ou deux exceptions près. D'autre part, c'est aussi un artiste assez complet qui s'exprime sous d'autres formes d'art, photos et peintures principalement. Ce livre, L'espace des rêves, est coécrit par Christine McKenna et David Lynch, et c'est une de ses particularités, c'est à la fois une biographie et une autobiographie. Sur la forme, ça se traduit par une progression chronologique, mais un chapitre purement biographique et factuel écrit par McKenna suit un autre chapitre autobiographique, cette fois-ci rédigé par David Lynch. C'est à mon avis l'un des premiers intérêts du livre, les précisions apportées par le réalisateur sur certains épisodes racontés dans la biographie. Et puis Lynch y ajoute aussi quelques anecdotes en plus. On y suit l'enfance, l'adolescence, les premières rencontres de David Lynch avec l'art. Cette première partie se situe dans le centre des États-Unis et sur la côte Est, et nous sommes dans les années 60-70, et on suit en pointillé les grands grandes réformes de la société américaine, mais aussi les drames du pays. L'autre avantage du livre, c'est qu'il ne s'adresse pas aux spécialistes de cinéma. L'espace des rêves, c'est plutôt un parcours de vie, une façon d'entrevoir la fabrique d'une œuvre artistique. Ce n'est pas dans ce livre que vous pourrez saisir les références fines de Eraserhead, le premier long métrage du réalisateur, ou faire une analyse sémiologique de Mulholland Drive. Non, on y décèle sans doute plus toute la palette des influences du réalisateur américain, aujourd'hui âgé de 73 ans. Juste un petit exemple. Un souvenir d'enfance, un immeuble qui paraît effrayant pour un gosse, et c'est une idée de décor qui ressort lors de la préparation de Blue Velvet en 1986. Voici le genre de petits détails qui titillent l'ancien étudiant cinéma et cinéphile que je suis. Mais encore une fois, le lecteur de cette biographie ne sera pas perdu par ce genre d'anecdotes, tant le livre est riche d'autres enseignements. C'est une façon de voir la carrière du cinéaste, bien sûr, ses relations avec ses acteurs, ses proches et sa famille. On comprend assez vite la psychologie du personnage et on essaye de saisir les origines de la noirceur qui parfois envahit son œuvre. Il y a aussi ce que dit Lynch de la méditation transcendantale qu'il pratique depuis l'âge de 20 ans. Pardon. N'étant pas aussi pointu sur le sujet, je laisserai au lecteur expert et ou curieux se faire son opinion. C'est toutefois intéressant à lire et ça permet de comprendre comment la méditation influe sur sa vie. Je vous l'avais dit, ce livre est avant tout un parcours. Je signale aussi les photos qui ponctuent les chapitres, illustrations de sa vie et à la fin de l'ouvrage, une indispensable filmographie ainsi qu'une chronologie de ses expos photos et peintures. Donc un livre à découvrir, chers amis, L'espace des rêves de David Lynch, collaboration avec Christine McKenna, c'est chez Jean-Claude Lattès. Mona, Yves, avant de revenir sur l'Uchronie imaginée par notre invité, moi je peux vous recommander une très bonne adaptation du Maître du Haut Château de Philippe K. Dick. C'est en série, c'est sur Amazon Vidéo, hein, Amazon Prime, ça s'appelle The Man in the High Castle. Il y a déjà 2 saisons et c'est vraiment une très belle adaptation, très bien servie, très bien interprétée. Et donc on peut juste donner un petit résumé. Oui, hein. Oui. Le Maître du Haut Château, ça raconte la victoire des Allemands sur les Américains et les Allemands et les Japonais se partagent le territoire des États-Unis. Les Allemands sont sur la côte est jusqu'à environ le Mississippi. Les Japonais sont sur la côte ouest, hein, du côté de Los Angeles, San Francisco. Et puis au centre, il y a une sorte de zone de non-droit, une zone neutre. Et c'est là que se trame pas mal de choses.
C'est très bien de nous avoir indiqué cette chose-là. Je vais me précipiter sur Amazon afin de pouvoir... Regardez, il y a combien d'épisodes qui sont déjà parus ?
Il y a 2 saisons de 10-12 épisodes.
Oh bien, quoi faire. Voilà. 2 nuits.
Exactement.
Mona.
Oui, alors votre roman se lit... Je pense qu'il y a deux niveaux de lecture à votre roman. C'est une histoire de famille, etc. Mais en même temps, mine de rien, vous abordez tous les problèmes... et les grands défis qui nous attendent, notamment la difficulté de s'intégrer quand on est immigré, la difficulté d'accueillir tous les flots d'immigrés, la GPA notamment.
Oui, aussi, oui, dans sanatorium.
C'est vrai que sanatorium, on ne sait pas ce qui reste d'humain dans cet établissement d'ailleurs.
Oui, ça se passe à Paris, dans le 25e arrondissement. Où Maïté failli être embauchée dans un atorium où l'on fabrique des gosses, où on embauche deux jeunes anglaises, parce que l'Angleterre est au 36e dessous, elle a été balkanisée aussi.
Oui, l'Angleterre, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, oui, les Écossais l'ont lâché. Bon,
le Brexit, donc, peut-être passer
par là.
Oui,
c'est le Brexit, oui, donc...
L'Irlande s'en tire.
Oui, un petit peu mieux. L'Écosse aussi, puisqu'elle fournit des mercenaires aux Chinois à Bayonne. Donc, c'est un atorium où on fabrique des enfants pour des couples, alors soit d'homosexuels, soit de femmes qui n'ont pas envie de passer 9 mois à s'embêter
qui n'ont pas le temps.
Oui, ils n'ont pas le temps, Mais... Mais on veut évidemment que ces enfants soient parfaits, donc ces filles sont enfermées pendant... Elles ont un contrat de 5 ans, hein, oui. Et elles doivent fournir 5 produits. On ne parle pas d'enfants, on parle de produits. Elles sont soumises à un régime très strict, pas question de picoler, pas question de fumer, etc. Elles sont soumises à un régime draconien, tout en étant bien traitées. D'ailleurs, on leur donne des cours de littérature, d'art, de musique, etc., quoi.
Oui.
Mais bon, c'est un peu le meilleur des mondes au niveau...
Voilà.
Il y a un peu de ça, quoi.
Et ils envisagent même pire.
Pardon ?
Ils envisagent même pire, le directeur de l'établissement de votre natatorium, il envisage même le pire, c'est-à-dire d'élever les enfants, de les rendre aux parents qu'une fois qu'ils seront propres.
Oui, c'est un projet d'extension du natatorium, oui. Parce que ces femmes qui ont quand même beaucoup d'occupations, qui ont des professions prenantes, le sevrage, l'allaitement du gosse, tout ça, c'est comme du temps perdu. Alors, on peut le faire dans le natatorium, moyennant un petit supplément. Quoi. Ça viendra un jour, faut pas se
leurrer. Alors, il faut signaler aussi que ce n'est pas, le roman n'est pas daté. On n'est pas en 2000, je ne sais combien, ou en 1800. On est de nos jours.
Ça se passe de nos jours, ouais. Dans un environnement technique qui est relativement banal.
Oui.
Bon, Internet existe, oui. Même s'il est brimé dans certains pays, s'il y a des
mais
contraintes.
Mais on est de nos jours, quoi.
Oui, ça se passe de nos jours.
Quoi. On n'a pas inventé des véhicules intergalactiques, je ne sais trop quoi. On est vraiment de
oui,
nos jours.
Oui, bien sûr, oui. Et le point de rupture, je le situe une trentaine ou une quarantaine d'années auparavant.
Oui. Donc juste le temps pour que les anciens ne puissent plus transmettre le français, par exemple, l'histoire. Voilà. Tel qu'il l'avait appris.
Une génération.
Une génération pour que les nouveaux habitants soient complètement dans le système, dans le système de partition. Quoi.
Mais c'est drôle parce que quand on les voit faire les commémorations officielles, on a l'impression de se retrouver en Corée du Nord. Quoi.
C'est un peu ça, oui, c'est une cérémonie. Bon, l'éducation qu'ont ces gens-là, notamment Maïté, je la qualifierais d'ethnofasciste d'une certaine manière. Mm-hmm. Bon, d'ailleurs, le nom de son lycée a été donné aussi à. On a donné le nom d'Eva Duarte aussi, donc il y a tout
Eva
un contexte. Eva
Perón, plus connue chez nous pour Eva Perón.
Et donc l'histoire de Maïté va être d'apprendre la vérité, mais l'histoire du pays et l'histoire de sa famille sont intimement liées.
Oui.
Puisque son grand-père est un des héros de l'indépendance, et elle va découvrir petit à petit ce qu'a été réellement son grand-père. Il ne faut pas révéler l'histoire. Elle va apprendre la réalité également sur sa famille. Elle va découvrir aussi son arrière-grand-mère qu'elle avait méprisée et qui a joué un rôle important, etc. Donc tous les mensonges vont pouvoir se découvrir petit à petit jusqu'à la fin. Bon, la fin est quand même optimiste.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Puisque lorsqu'elle est à Paris, elle découvre un personnage aussi qu'elle croyait mort. Et il y a des mouvements... des mouvements politiques, des émigrés qui œuvrent pour le retour, c'est-à-dire pour le retour de ces pays à la France.
Oui.
Notamment des gens qui se réunissent dans un bar qui s'appelle le bar des Enfants de Chassados. Et l'histoire commence, en fait, se déroule à un moment où ça commence, disons, à branler dans le manche, autant au Pays Basque qu'en Occitanie et qu'en Corse. Et ça se termine donc de manière, enfin à mon sens, du moins de manière positive, quoi. Mm-hmm. C'est le début du retour.
Oui, c'est le début du retour. Effectivement, heureusement qu'il y a ça, parce que je vous dis, des fois, c'est un petit peu glaçant, quoi, quand même. Même s'il y a des personnages truculents, comme notamment l'imam. Parlez-nous de l'imam, là, justement, avec l'Église catholique. Pour les restrictions budgétaires, l'Europe a décidé que...
Oui, alors l'imam, il s'appelle Pierre Higues. Il a un nom bien breton.
Bien breton.
Il est copain comme cochon avec le curé.
Oula.
Avec qui, là, oui. C'est le cas de le dire. C'est un copain de lycée, donc ils s'entendent comme larrons en foire. Et ils se partagent l'église qui sert de mosquée le vendredi. Et qui, il le dit, mais enfin, ça pourrait servir aussi de synagogue le samedi, si c'était nécessaire. C'est ce qu'on appelle les églises simultanées. Ça existe en Alsace, entre protestants et catholiques. Et donc, ces deux personnages vont organiser une manifestation gigantesque à Naoned pour protester contre une directive européenne qui a prévu la création d'une place dans chaque commune pour pouvoir flageller les femmes adultères, au nom du respect des cultures, au nom du respect de la diversité.
Oui. Donc, c'est la commission culturelle, en plus.
C'est les affaires QI, c'est culturel, bien sûr. Bah, tout ça, c'est culturel, on sait bien.
Non, c'est pas culturel, c'est culturel.
Oui, c'est QI, c'est même plus court que ça. Mais, le curé et l'imam vont mobiliser leurs troupes pour protester contre cette idée de balancer ils vont aller arracher la pancarte parce que sur cette place il y a une pancarte qui indique le lieu où doivent se passer ces flagellations, quoi. Et ils vont aller détruire cette pancarte et la jeter dans la Loire.
Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous lire un petit passage là, justement suite à cette juste avant la manifestation, quand Maïté raconte à son mari ce qu'on lui ont raconté l'imam et le curé.
Oui. Le soir, Maïté raconta sa visite à la mosquée et surtout cette information incroyable. La directive de la Commission européenne sur la flagellation des femmes adultères. Gall ne sembla pas surpris. Gall, c'est son mari. Bah, voilà le prolongement logique de la politique de respect des cultures minoritaires et de la diversité. Ce fut d'abord le cas des langues, t'en souviens-tu ? Nous n'étions pas encore nés, cher enfant. De fil en aiguille, elle a conduit à notre indépendance. Ça n'explique pas comment une idée aussi saugrenue a pu sortir toute armée de la tête d'un commissaire. D'abord de celle du lobby des fondamentalismes musulmans. Il a pignon sur rue à Bruxelles avec des milliers d'autres. Il est dirigé par un prédicateur planqué en Suisse. L'argent ne leur fait pas défaut. Un commissaire se comporte comme une plante. Elle pousse si on l'arrose. Et là, elle a produit une jolie fleur vénéneuse. Que nous allons arracher. Pourquoi tant d'acharnement, belle jardinière? Ça ne te concerne pas. Tiens, je te jure. Gaël posa la main droite sur le livre de chevet de Maïté qui traînait sur la table de cuisine. Je te jure, sur la cuisine du Trégariac pour les nuls, que si un jour tu me trompes, je ne te fouetterai pas, même si tu me le demandes. Ouais, je reconnais là ta grandeur d'âme, mais j'irai quand même à la manif.
Donc c'est effectivement très drôle.
Oui, oui, non, non, mais on s'amuse beaucoup.
On s'amuse beaucoup. Oui, 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 bien
en
sûr.
Alsace également, quoi. Il y a une, on écoute l'Alsace, les Alsaciens parlent aux Alsaciens, oui. Qui est une radio pirate qui émet depuis Falsbourg contre le parti qui a pris le pouvoir en Alsace, quoi.
Oui.
Ça se termine un peu tragiquement par une, à propos du maire de Strasbourg, mais enfin bon, ça s'arrange.
Mais il y a quand même, c'est quand même, enfin il y a quand même beaucoup de traces d'humour et même si parfois c'est un peu tragique comme tu dis, mais malgré tout, on plonge quand même nos racines ou les racines du roman dans l'histoire réelle, celle qui s'est bien passée et celle qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Quoi.
Oui, bien sûr, oui, tel que ce à quoi pourrait s'aboutir si des mouvements autonomistes parvenaient à prendre le pouvoir. On a le cas en Corse, on n'en est pas loin. Hein,
voilà. Bon. La Lorraine était épargnée, bizarrement.
Bah, la Lorraine, oui, la Lorraine est complètement épargnée, elle est restée française.
Elle est restée française.
Oui, bah, la Lorraine a toujours été française, hein. Y a aucun problème.
Oh non, tu vas fâcher plein de gens.
Oui.
Alors, la situation en Alsace est un petit peu différente, quoi. C'est un parti indépendantiste aussi qui a pris le pouvoir, mais qui a des relents un peu bizarres. Ce qui aboutira d'ailleurs à cette émeute à Strasbourg. C'est là qu'intervient le personnage de Fredel, qui est un personnage assez mystérieux, qui a des activités parallèles, qui était même jusqu'à être professeur de français dans des écoles à rallonge. Ou les candidats,
oui, les écolards. Ah,
oui, juste un mot. Je me suis dit, ce personnage-là, on le reverra dans un autre roman.
C'est pas impossible. Oui. Mais enfin, il réapparaît dans l'histoire. Alors, les écolards à rallonge.
C'est romans chorales là où on voit des gens qui sont des rôles secondaires, puis on les voit réapparaître dans d'autres romans.
Oui, c'est pas impossible.
Dit, il est en train de préparer quelque chose.
Non, les écolards à rallonge en Alsace, c'est bon, la langue alsacienne est une langue très riche en images, etc. Et quand l'Alsace est devenue indépendante, l'enseignement du français a été sinon prohibé, du moins mis sur la touche. Mais des familles ont voulu néanmoins que leurs enfants continuent à apprendre le français. Donc, ils organisaient des écoles privées, des écoles particulières. Ils ont embauché des professeurs et ça se passait dans les familles. Ça se passait dans les appartements, dans les maisons, en regroupant des enfants de plusieurs familles. Alors, le mot école à rallonge, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur l'origine du terme. Est-ce que ça voulait dire que ça venait en rallonge en plus de l'école normale, après les heures de cours? Mais la langue alsacienne est beaucoup plus riche que ça parce que, comme ces cours de français avaient lieu dans les familles, on regroupait les enfants dans la salle à manger et on tirait les rallonges pour mettre tous ces gens-là autour de la table. Voilà le sens qu'il faut donner aux écoles à rallonges. Et ce Fredel était professeur dans des écoles à rallonges après avoir une carrière assez mouvementée dans le domaine linguistique, dans le domaine de la traduction.
Oui. Puis en fil rouge, il y a aussi la fable de La Fontaine.
Ah, la fable de La Fontaine, oui. Qu'on voit sous différentes moutures, en basque.
Le
chien et le loup. Oui. Alou n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Et donc, Maïté l'a apprise en basque, bien entendu, dans son enfance. Et elle était l'œuvre, lui, d'un berger basque qui s'appelle Johan Ituri, ou Ituri voulant dire fontaine, d'ailleurs, en basque, et qui a écrit des fables sur les animaux de son pays. Son fiancé lui fera remarquer aussi que le lion, c'était pas tellement un lion du moment. Et donc elle a appris cette fable et elle l'a même jouée en scénette avec une autre petite fille. Mmh. Dans une histoire d'ailleurs assez cruelle, mais enfin. Oui. Et il retrouvera donc cette fable en Bretagne, mmh. traduite en breton, c'est son petit-fils, son enfant qui l'apprendra. Et elle découvrira brusquement que les fables ont été écrites par un Français qui s'appelait La Fontaine. Mmh. Elle découvre ça, c'est une partie du mensonge. Oui. Mmh.
Donc en plus, son gamin qui est né en Bretagne doit l'apprendre en breton. Après, ils suivent donc le papa qui a une mutation en Alsace. Il est obligé de la réapprendre en alsacien.
Et là, c'est le drame parce que le pauvre gosse est complètement déculturé. Ben oui. Il y a tout le drame là derrière, des gens qui doivent changer de pays, voilà. qui se retrouvent confrontés à des problèmes de langue, il y a la scène où Maïté va dans un supermarché et arrive pas à déchiffrer ce qu'il y a sur les boîtes. Elle est aidée par la commerçante. Enfin, toutes les épreuves que constitue pour un émigré. Des opérations qui sont évidentes pour les gens du pire. Le gosse avait à peine appris le breton qu'on va lui faire apprendre l'alsacien. Il était traité de tête de breton par ses petits gars. Bon, il décroche complètement du point de vue scolaire, quoi.
Mm-hmm. Oui. Et en plus, donc après, le mari est remuté, enfin, il repart pour son activité professionnelle à Paris. Mm-hmm. Et en fait, c'est l'angoisse pour Maïté parce que Maïté, pour elle, il y a les loups à Paris, il y a...
Oui, alors Paris, donc le mari Gaël, le mari de Maïté, pour des tas de raisons, va abandonner la poire, enfin Père, la multinationale, et va aller travailler pour une jeune pousse à Paris, qui a son siège à la Défense. Alors Maïté trouve que la langue française est un peu bizarre. Une jeune pousse, elle appelle ça des start-up, une jeune pousse, mais les Français appellent ça une jeune pousse, bon... C'est comme ça. Tant donc, ils vont retourner à Paris et elle va être amenée à apprendre le français, mais elle réussira à mettre son enfant dans une école où il pourra finalement rattraper un petit peu le temps perdu, quoi.
J'ai cru qu'à un moment, on allait parler des loups, la chanson.
Ah, les loups, oui, oui.
Immortalisée par.
Oui, parce que. Oui. Non, mais bien sûr, oui, j'avais pensé à la chanson de.
Elle pense qu'il y a des loups au Bois de Vincennes, hein, et au Bois de.
Oui. Ben, elle retrouve. C'est-à-dire qu'on lui avait appris dans son pays que la France était un pays complètement. Enfin, ce qui restait de la France était un pays complètement tombé dans déshérence. Oui. Que l'herbe poussait dans les rues à Paris et que les loups l'avaient envahi, quoi. Les rues étaient envahies par les loups.
Et les seuls loups qu'il y a à Vincennes, ils sont dans des.
Ils sont dans des zoos,
dans un zoo. Hein.
Oui. Et elle va découvrir que, c'est pas du tout ça, quoi.
Eh bien, donc, nous n'allons pas écouter Les Loups par Serge Reggiani. Non. Nous allons faire une autre pause musicale et nous allons écouter Memory par Barbara Streisand.
Mon accent est...
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. And soon it will
give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. Of morning, a street lamp dies, another night is over, another day.
Vous êtes bien sur RCN 90.7 sur la bande FM et puis tous les accès qui vous sont permis grâce aux différents réseaux sociaux. Vous êtes bien aussi dans l'émission Les Plumes d'Austrasie. Et d'ailleurs, parce que nous irons voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, la preuve en est, c'est que Julien va nous relater maintenant l'amour que tu as eu pour un autre bouquin.
L'amour, je ne sais pas. En tout cas, l'intérêt, un livre d'actualité pour cette chronique, oui. Yves, sur un personnage politique, le président des États-Unis d'Amérique. Vous le savez, ce président en exercice, c'est Donald Trump, milliardaire, magnat de l'immobilier, ex-animateur de télé-réalité, élu en novembre 2016 après une campagne pleine de rebondissements. Le livre de Bob Woodward revient bien sûr sur cette campagne, sur l'arrivée de Trump en politique et sur les hommes et les femmes qui ont conduit à la victoire du candidat républicain lors de cette campagne présidentielle. Les soupçons d'ingérence russe sont également évoqués, ainsi que les liens toujours étroits du président des États-Unis avec les milieux économiques et financiers. Il faut d'abord parler de l'auteur, Bob Woodward. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et vous avez raison. Woodward, alors jeune journaliste récemment engagé par le Washington Post, révèle l'affaire du Watergate en 72. Cette affaire d'espionnage politique impliquant les deux grands partis américains, démocrates et républicains, aboutira en 74 à la démission du président d'alors républicain, Richard Nixon. Le film d'Alan G. Pakula, Les Hommes du Président, retrace cette enquête menée avec son confrère Carl Bernstein, et c'est Robert Redford qui incarnait Woodward dans le film. Le journaliste est également l'auteur d'enquêtes sur les présidences Bush Jr. et d'Obama. C'est une figure du journalisme d'investigation aux États-Unis. Peur est donc le dernier ouvrage de Woodward, et même si on suit l'actualité américaine de près, on ne peut être qu'être surpris par le contenu de ce livre. La méthode employée par l'auteur est très simple. Des chapitres thématiques courts qui traitent d'un sujet politique, le commerce extérieur, la politique économique des États-Unis, les relations internationales, les déboires de Trump avec la justice de son pays, l'ingérence russe dans la campagne, etc., etc. Les sources sont diverses. Articles de ses confrères sur la présidence, travaux universitaires, interviews, bien sûr. Et plus surprenant, l'exploitation de notes prises par les collaborateurs de Trump lors de réunions. L'écriture de Woodward, traduction française de Cécile Dutel et Marc Saint-Upéry, est fluide comme un roman. Le livre, d'ailleurs, se lit très vite. Un fil rouge se crée au rythme des révélations des journalistes, des attaques des opposants au président ou des tweets, souvent irréfléchis, de Donald Trump. Car l'instabilité émotionnelle du 45e président des États-Unis est au cœur de l'ouvrage de Bob Woodward. Le document s'ouvre sur cette révélation étonnante. L'un des collaborateurs les plus proches de Trump à la Maison-Blanche s'emploie régulièrement à subtiliser des brouillons de décision afin que le président n'engage pas plus son pays sur une pente glissante. L'actualité de ces dernières semaines nous avait révélé une fuite sur l'emploi du temps de Trump, ce dernier ne passant que quelques heures à son bureau. Le livre nous confirme cela, révélant un président commençant sa journée de travail à 11h du matin, passant énormément de temps devant sa télévision à regarder Fox News en replay et jouant au golf tous les week-ends dans l'une de ses nombreuses propriétés réparties dans le pays. Vous me direz, le président des États-Unis dispose d'un aréopage d'assistants et de collaborateurs pour faire tourner le pays. Je vous réponds oui, bien sûr. Mais on lit aussi avec un certain effarement les difficultés de Trump à se concentrer lors des réunions. Ses collaborateurs ayant abandonné les mémos dactylographiés de plusieurs pages pour revenir à des présentations graphiques PowerPoint. On découvre aussi que Donald Trump mise parfois plus sur son instinct d'homme d'affaires que sur une responsabilité morale pour prendre certaines décisions pour son pays et que, révélation un peu moins étonnante, la sphère médiatique impulse nombre de ses décisions. Alors au final, quel est le sous-texte de ce livre et que peut-on y apprendre en tant que lecteur français et européen ? D'abord, Peur est un livre éclairant sur comment se crée un animal politique comme Donald Trump. Rien ne prédestinait l'homme d'affaires à devenir un homme politique. Trump est approché par deux émissaires du Parti républicain puis se lance dans la course aux primaires. L'un des éditorialistes conservateurs les plus influents des États-Unis, Steve Bannon, devient l'un des conseillers politiques pour la campagne. Il fait gagner Trump. Cette montée des conservateurs aux États-Unis après 8 ans de présidence Obama est bien résumée dans le livre et permet de situer les forces politiques en présence, ainsi que le système politique du pays. Ensuite, on comprend que cette ascension de Trump est basée non pas sur un mensonge, mais sur une communication biaisée. Trump est américain et surtout mondialiste quand ça arrange les affaires de son pays. En cachant une part de la réalité mondialisée, de l'économie à ses électeurs et les conséquences économiques de cette mondialisation sur les États-Unis, le président reste dans un protectionnisme typiquement américain. Certains le qualifient de populiste, c'est sans doute un peu vrai. En tout cas, la lecture de Peur fait réfléchir le lecteur européen sur cette thématique, même si la situation sur le vieux continent n'est pas tout à fait la même. Enfin, on peut se dire que l'American Dream peut produire le meilleur comme le pire. Même si vous n'aimez pas le personnage, le livre est à découvrir entre enquête journalistique et parfois une étude sociologique de la politique américaine. Peur, sous-titré Trump à la Maison Blanche de Bob Woodward, s'est paru en novembre dernier au Seuil.
Merci Julien. C'est très intéressant et passionnant de découvrir un peu ce qui se cache derrière ce personnage. Et le côté un peu marionnette de ce personnage.
Effectivement.
Il y a quand même des choses qui se passent derrière.
Ouais.
Grave. On revient à notre ami Raymond Hiss, que nous recevons aujourd'hui sur RCN. Ton avenir ?
Mon avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais disons qu'à très court terme, je serai dimanche prochain au Salon des auteurs lorrains à Villers, à la salle des Écraignes.
C'est demain. Mais oui, c'est demain.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est demain. d'accord. Et donc, ça se passe dans la salle des Écraignes, rue Albert Ier à Villers-Nancy, en face du château de Graffigny. Et j'y serai, bon, avec bien sûr le bar des Enfants de Chassados et d'autres produits du même cru, et avec 60 autres auteurs lorrains. Et je vous invite à venir. C'est le 12e salon, donc, qui est bien rodé. Vous découvrez toutes les facettes de la littérature de ces auteurs lorrains.
On peut dire que c'est peut-être le salon le plus important après l'incontournable salon du livre du mois de septembre, le livre sur la place.
Oui, sans doute, avec une soixantaine d'auteurs, un salon conséquent, où on ne trouve pas que, bien entendu, de la littérature régionaliste, la preuve, moi. Mais on trouve du policier, de la littérature jeunesse, des bandes dessinées, enfin tous les genres littéraires y sont représentés.
Et il y aura la remise du prix Victor Hugo.
Et la remise du prix Victor Hugo à un de ses auteurs, donc les trois présélectionnés ont été déjà été choisis, et l'un d'entre eux aura la surprise de recevoir le prix Victor Hugo dimanche en matinée.
Voilà.
Un livre bientôt ?
Oui, alors si je continue à consulter ma boule de cristal, si je me déporte au mois de septembre, je devrais sortir un livre aux éditions des Parages à Metz, qui sera également une uchronie, qui d'ailleurs s'appellera La Princesse d'Austrasia d'ailleurs, et qui est une uchronie plus classique, c'est-à-dire qui est basée sur l'histoire du grain de sable. La guerre de 14 n'a pas eu lieu, Gabriel Principe a utilisé un revolver de mauvaise fabrication japonaise qui s'est enrayé. Mais enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Mmh. Et donc, on se retrouve à notre époque dans en Austrasia, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près à l'Alsace-Lorraine, qui est devenue indépendante par un accord commun entre la France et l'Allemagne. Et le personnage, un Français qui débarque à Metz, qui est devenu la capitale économique de cette région, va vivre des aventures dont une pseudo-histoire d'espionnage assez rocambolesque. Mais il fait surtout des cauchemars parce qu'il visite des forts, les forts de Metz, comme il a visité le fort de Douaumont en France aussi. Et il fait des cauchemars guerriers, où il rêve de choses qui n'existent pas dans son monde, de chars, de gaz de combat, de lance-flammes, etc. Et obsédé par ça, il va écrire une histoire, un livre d'histoire, qui commence en 1914, à l'occasion d'une guerre entre l'Allemagne et la France. Il va voir des éditeurs avec son synopsis de roman, tout le monde l'envoie sur les roses en disant que c'est complètement stupide, c'est totalement irréaliste, ça ne pourra jamais exister, c'est totalement... Une uchronie dans l'uchronie. Et ça raconte en fait l'histoire d'une famille messine pendant cette période à partir des années 1914. Ça se prolongera d'ailleurs jusqu'en 1943, puisqu'un personnage de cette famille, une jeune femme, Anna, qui a fini par devenir un peu à mon insu le principal personnage de ce roman, va aller en Russie et va y rester sous la dictature de Kerensky, va être déportée en Sibérie. Elle reviendra bien, bien arrangée, disons en 1943, en pleine période de paix à Metz. Et parce que cette guerre de 14, c'est pas la guerre de 14-18, bien sûr, c'est la guerre de 14-17, parce qu'elle se termine d'une autre manière que celle que nous avons connue. Donc c'est une uchronie dans l'uchronie, mais avec des aspects un petit peu différents. Il y a des personnages totalement imaginaires, un général qui s'appelle Georges de Gaulle, qui intervient en 1940, et des personnages, donc comme dans toutes les uchronies, qui sont pris à contre-emploi. Ainsi, le personnage principal qui arrive à Metz va participer à une rétrospective d'un grand peintre allemand qui s'appelle Adolf Hitler, qui est devenu donc un grand peintre. Il est mort fou d'ailleurs en 1945 en essayant de détruire une partie de ses œuvres.
Tant mieux.
Voilà.
Eh ben, nous attendons avec impatience la sortie.
Rendez-vous en septembre.
Rendez-vous en septembre, octobre.
Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui notre émission Les Plumes d'Austrasie. Mona. D'autres choses à ajouter ?
Ben non, pour l'instant non, je reviendrai la prochaine fois.
On se retrouve dans 15 jours.
Dans 15 jours. Hein ?
On a déjà un programme qui vous attend. Et puis, bien sûr, dans 15 jours, il y aura...
Julien, bien sûr.
Avec grand plaisir.
Notre ami Julien qui aura des nouvelles découvertes à nous faire.
Il va falloir lire, c'est ça le problème.
Et puis, il nous a dit, hors antenne, qu'il allait essayer de trouver des liens entre l'écrit et l'image.
Ben oui.
C'est vrai que c'est important.
C'est le défi.
Ça fait partie de notre vie de tous les jours.
Effectivement.
Hein. Merci Mona.
Ben merci.
Merci Thomas. Vraiment. Thomas qui était à la technique aujourd'hui. Rendez-vous donc à dans 15 jours.
À dans 15 jours.
Au revoir.
Au revoir à tous.
Des enfants au fil du temps, dans les guerres et les larmes, se sont fait d'un cœur d'acier, fragile comme du